VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Nidia Dakar, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Niger, formation de nouveau gouvernement dans le pays. Il s'agit d'une équipe de 42 ministres qui a été rendue publique hier à la télévision nationale. Le président Issoufou Mahamadou a renouvelé sa confiance au premier ministre Brigui Raffini et le nouveau gouvernement comprend entre autres des militants du MNSD Nassara, arrivé troisième à la dernière présidentielle et qui a récemment regagné le camp de la majorité. Plus de détails avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Attendu depuis l'annonce du ralliement du MNSD Nassara, parti de l'opposition à la mouvance présidentielle, le nouveau gouvernement qui vient d'être formé va certainement faire beaucoup de dessus dans l'opinion nationale. Beaucoup s'attendaient en effet à une réduction de ses membres, 43 au total, il reste intact. Autre attente dessus, c'est l'entrée de nouveaux cadres du parti présidentiel dans le gouvernement, les actuels étant là pour la plupart depuis le premier mandat. Le nouvel allié a été satisfait avec 6 portefeuilles, dont le principal est celui de la santé, dirigé par un professionnel du secteur. Le secrétaire général du parti de Tanja Mamadou, artisan principal de ce ralliement, se voit attribuer le département des enseignements professionnels et techniques. Le MPR Jamhouria de Albadé Abouba, qui était la deuxième force de la majorité, se retrouve avec 5 départements ministériels au lieu des 8 qu'il avait dans la précédente équipe. Pour le reste, le parti du président Issoufou conserve sa dizaine de portefeuilles, dont tous les ministères régaliens, avec cependant un changement de département pour Hassoumi Massaoudou, qui quitte la défense nationale pour les finances. Brigui Raffini reste premier ministre et Bazoum Mohamed ministre de l'intérieur. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En RDC, l'opposition se dit largement satisfaite des résultats de la journée ville morte d'hier qu'elle avait préconisée sur toute l'étendue du territoire congolais. Le compte-rendu de Joseph Olengakoy, membre du Conseil des sages de la plateforme Rassemblement.
Dans mon évaluation, je crois que c'est comme l'évaluation de tous les Congolais et tous les partenaires qui habitent le Congo. Venez de remarquer que notre peuple vient de répondre massivement à l'appel lancé par le rassemblement. Toutes les villes sur toute l'étendue du pays ont été paralysées. C'est mercredi 19. Nous venons de donner un grand message. C'est pour dire au gouvernement que l'accord qui vient de signer au Katiati, à la cité de l'OIA avec M. Kodjo, ne sera jamais d'application à la République démocratique du Congo. C'est un rejet total. Deuxièmement, nous réclamons un dialogue dans l'esprit de la résolution 2277. L'Assemblée de notre peuple a répondu à l'appel de rassemblement et a jeté son désaveu sur la continuité du régime de Kabila. Toutes les villes ont répondu au grand message du rassemblement. Dans la ville de Kinshasa, il n'y a eu ni quelconque tentative d'ouverture de quoi que ce soit.
Joseph Olengakoy, membre du Conseil des sages du rassemblement, la plateforme d'opposition en RDC. RCA maintenant, le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian a estimé hier que l'opération Sangaris en Centrafrique a donné de bons résultats et qu'il faut maintenant passer le relais à l'ONU, même si la stabilité n'est pas totalement revenue dans le pays. Le point avec John Lyndon.
Nous fermons une opération parce que cette opération a été un succès, a déclaré devant l'Assemblée nationale M. Jean-Yves Le Drian, qui doit la clore officiellement le 31 octobre à Bangui. Nous avons évité des massacres de masse, permis un processus de réconciliation, la reconstitution de l'État centrafricain, une élection présidentielle et des élections législatives, a-t-il déclaré lors d'un débat sur les opérations extérieures de la France. La RCA peine à se relever du chaos de la guerre civile provoquée en 2013 par le renversement du président François Bozizé par des rebelles Séléka, majoritairement musulmans. Cela avait entraîné une contre-offensive des milices anti-Balaka, majoritairement chrétiennes. Des groupes armés sont toujours actifs dans le pays. Environ 350 militaires français équipés de drones d'observation resteront présents à RCA, dont une centaine pour appuyer la MINUSCA.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale ne va pas interrompre le travail de la procureure de la CPI déjà entamée sur les crimes commis dans le pays depuis avril 2015, affirme l'ONU. Adama Dieng, conseiller spécial de l'ONU sur la prévention du génocide, déclare que la justice internationale garde un œil sur la situation des droits de l'homme au Burundi. On l'écoute.
Les effets de ce retrait ne sont pas rétroactifs. C'est dire donc que tous les crimes qui ont été commis pendant cette période, jusqu'à un an après la notification auprès du secrétaire général, feront l'objet de cette enquête. Et bien entendu, ce n'est pas parce qu'on n'est pas état partie à la CPI que les individus auteurs de crimes ne seront pas poursuivis. Il y a eu des précédents, tels que le Soudan, qui n'était pas parti et dont certains de ses responsables se sont retrouvés mis en accusation devant la CPI. Et c'est pourquoi il me semble important que tout soit mis en œuvre pour que le Burundi puisse coopérer afin que les auteurs des crimes commis puissent être poursuivis devant les juridictions compétentes.
Adama Dieng, conseiller spécial de l'ONU sur la prévention du génocide. Au Tchad, des députés ont déposé hier une motion de censure contre le gouvernement. Ils s'opposent aux mesures prises pour gérer la crise sociale et économique, notamment le gel des primes et indemnités de recherche des enseignants pour 18 mois et la suppression des bourses d'études. Les explications de Mato Inge Benelngar, député de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, qui a introduit la motion de censure.
Que ce soit de la majorité ou de l'opposition, nous devrons poser certaines questions à ce gouvernement. Nous avons d'abord, dans une diplomatie parlementaire, essayé simplement d'interpeller le gouvernement pour échanger, puisqu'il n'y a pas d'issue. Et nous avons déposé la motion de censure qui devrait être transmise au gouvernement. Il doit répondre rapidement dans un délai, mais c'est dans pas trois jours. C'est des moyens que la Constitution nous a permis en tant que parlementaires de contrôler l'action du gouvernement. Ce n'est pas une volonté affichée pour renverser le gouvernement, mais que le gouvernement s'explique. Mais s'il n'arrive pas à s'expliquer et nous donner des arguments convaincants, je crois que les parlementaires que nous sommes seront obligés de voir dans quelle mesure d'amener le gouvernement dans la raison et à la raison.
Mato Inge Benelngar, député de l'Union nationale pour le développement et le renouveau au Tchad. Présidentielle américaine 2016, maintenant le candidat républicain Donald Trump a manqué, d'après les observateurs, une occasion de prendre l'avantage hier lors du dernier débat de la campagne présidentielle face à la démocrate Hillary Clinton, en semant le trouble par sa menace de refuser le verdict des urnes le 8 novembre. Une quinzaine de personnes issues de l'immigration originaire de divers pays a pris part à une discussion ici à la Voix de l'Amérique après le troisième débat. L'une d'entre elles, Angèle Kouemo, originaire du Cameroun et directrice pour l'Afrique du Washington Media Group.
Il y a un jeune homme du Moyen-Orient qui a dit que la politique d'Hillary, le projet qu'elle proposait n'était pas acceptable. Il a reconnu qu'il était d'accord avec Donald Trump en disant que la politique américaine vis-à-vis du Moyen-Orient était une erreur. Mais ce que je lui demandais après, c'était de savoir, ok, d'accord, on est tous d'accord qu'on a un problème au Moyen-Orient, mais on a un projet, on a un plan, celui d'Hillary, on n'a pas de plan de la part de Donald Trump.
Le candidat Donald Trump a aussi fait savoir qu'il attend de voir les résultats de la présidentielle avant de se prononcer sur leur validité. Comment est-ce que cette position a été interprétée?
Ah oui, là j'ai rigolé. Parce que sur cette question-là, j'ai fait un petit commentaire en disant que nous, les immigrés, on vient ici avec, on a un idéal de démocratie. On vient ici parce qu'on s'imagine que c'est un système qui est parfait. Mais l'élection de cette année nous montre bien les limites de démocratie parce qu'on ne sait pas trop quels en seront les résultats. On n'arrive pas vraiment à comprendre quels sont les plans, les projets que les candidats nous présentent. Et en plus de ça, il y en a un qui a plein de casseroles dans son passé, qui n'est pas articulé, qui insulte tout le monde. Mais le personnage de Donald Trump est plus ou moins intéressant. Je ne dirais pas qu'il a des chances de remporter les élections, mais il est bien parti pour rendre la victoire d'Hillary plus ou moins difficile.
Vous étiez un groupe de personnes issues de l'immigration. Comment avez-vous vu les positions des deux candidats concernant l'immigration?
Par rapport à l'immigration aussi, j'étais aussi plus ou moins surprise de voir que quelques-uns parmi nous étaient d'accord avec Donald Trump. Mais je leur ai dit que c'est vrai qu'il faut, bâtir le mur. C'est vrai que tout pays a besoin de protéger sa territorialité, sa souveraineté. Mais faire un plan d'immigration sur la base d'une petite minorité de criminels, à mon sens, n'est pas très intelligent. Mais en général, je pense qu'on est tous d'accord avec le plan que Hillary a présenté sur une approche globale d'immigration avec la protection des frontières, l'application des textes de loi, créer une avenue de légalisation pour les immigrés qui sont là, sur la base de ce que il faut protéger les familles, comme elle a bien articulé, il faut protéger les familles, protéger les enfants, protéger les cohésions sociales. Bien entendu, elle a aussi relevé l'apport économique des immigrés ici, en concluant d'une façon plus ou moins ironique que des illégaux ici aux États-Unis payent plus d'impôts que les milliardaires comme Donald Trump.
Angèle Kouemo, directrice pour l'Afrique du Washington Media Group.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.